Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Cara, étudiante en biologie à l'UNS de Lyon, et qui a été diagnostiquée avec une phobie sociale. Bonjour Cara.
Bonjour.
D'après la CIM-11, qui est la version la plus récente de la classification internationale des maladies, la phobie sociale se caractérise par la crainte d'être dévisagée par d'autres personnes, entraînant un évitement des situations d'interaction sociale. Les phobies sociales envahissantes s'accompagnent habituellement d'une perte de l'estime de soi et d'une peur d'être critiqué. Les phobies sociales peuvent se manifester par un rougissement, un tremblement des mains, des nausées ou un besoin urgent d'uriner, la personne étant parfois convaincue que l'une ou l'autre de ces manifestations secondaires constitue le problème primaire. Les symptômes peuvent parfois évoluer vers des attaques de panique. Du coup, là, ce que je viens de lire, c'est la définition médicale, scientifique. Comment tu décrirais la phobie sociale avec tes mots à toi ?
Je dirais que les phobies sociales, c'est un peu une peur excessive du jugement des autres et de leur regard, du regard qu'ils peuvent porter sur notre façon d'être, sur notre façon de nous comporter ou de nous habiller en général. Et c'est une peur qui est complètement excessive et irrationnelle et qui se traduit dans des situations qui sont complètement aléatoires. Donc, par exemple, aller à la boulangerie ou juste vouloir discuter avec quelqu'un au hasard à l'école ou dans un bar.
Et une question que je pose à chaque épisode, c'est comment tu te définis ? Est-ce que le mot de handicap te correspond ? Est-ce que tu préfères le mot de maladie, de trouble, de différence ? Enfin, quel est le mot qui te correspondrait le mieux ?
Je dirais que le mot handicap, il correspond pas mal parce que c'est quand même un handicap social, parce qu'il m'empêche au final d'avoir la vie que j'aimerais avoir à 100%. Mais dans le même sens, c'est aussi un trouble d'une certaine manière parce que je pense qu'on a des fois un peu du mal à imaginer qu'une phobie puisse être un handicap. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours un peu du mal des fois de mettre ce terme que je trouve très fort. Donc j'alterne un peu entre les deux définitions.
Là, elle leur précise quelle définition, quel terme tu poserais ?
En vrai, j'aurais tendance à dire que c'est un peu un handi-trouble. C'est un terme un peu métissé, on pourrait dire, mais qui correspond un peu à ce que j'en ressens. Enfin, c'est à la fois un handicap, à la fois un trouble. Et c'est un peu difficile pour moi de vraiment me caser dans une case spécifique.
Qu'est-ce qui te parle vraiment dans le côté handicap et qu'est-ce qui te parle vraiment dans le côté trouble ?
Je me retrouve pas mal dans la définition de trouble parce que ça correspond vraiment à la définition classique que je me fais. Donc vraiment juste une perturbation de quelque chose qui devrait être normal. Donc on devrait être en mesure, par exemple, dans mon cas, de juste discuter avec les autres et d'être normal avec les autres. Mais dans le même temps, handicap, ça correspond pas mal parce que pour moi, le handicap, c'est vraiment quelque chose qui bloque dans le quotidien. C'est une expérience qui est très personnelle et très isolante, le handicap. Alors que le trouble, à mon sens, c'est quelque chose qui est un peu plus partageable et un peu plus compris par la majorité des gens. Donc je me retrouve un peu dans les deux parce que dans le même temps, je me sens très isolée socialement, donc un peu handicapée par ça. Mais dans le même temps, le trouble, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve parce que c'est quelque chose qui est un peu plus commun au final dans la population. Enfin, je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de troubles sociaux en général. Donc je suis un peu entre les deux et j'ai un peu du mal à trouver ma définition propre, du coup je suis un peu dans un mix.
Mais je crois que handi-trouble, du coup on va rester là-dessus. Parce que donc là on parlait de phobie sociale au début, tu me disais avant de préparer l'émission que tu as eu un diagnostic qui a été posé, ça fait combien de temps que tu as ce diagnostic-là ?
Ça a bientôt fait 5 ans, j'ai eu un pré-diagnostic quand j'avais environ 16-17 ans, donc pendant ma première année de fac. C'était en gros des suspicions sur la base de ce que je racontais, de mes expériences avec les autres, avec la médecin de mon campus universitaire. Et j'ai eu un vrai diagnostic avec la psychologue du campus de l'ENS quand j'avais à peu près 18 ans, donc ça commence un peu à remonter maintenant. Et elle a vraiment posé les termes, elle m'a fait tout un test pour savoir exactement si ça pouvait être de la phobie sociale ou peut-être de l'anxiété généralisée. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai su que je souffrais vraiment de phobie sociale.
Et parce que du coup, concrètement, c'était quoi les signes ?
Je dirais que les signes, ça a un peu commencé quand j'étais au lycée. J'avais une peur excessive des autres. Le simple fait de sortir de chez moi, c'était une véritable épreuve parce que j'étais toujours en train de me questionner sur mon apparence, sur ce que je disais, sur ce que je ne disais pas aussi. Et ça faisait que, par exemple, j'étais très isolée, j'avais du mal à me faire des amis ou à les maintenir. J'avais aussi du mal à communiquer avec les profs, à participer en cours. Et je dirais que le jour où j'ai vraiment réalisé que j'avais un problème, c'était quand j'étais en plein cours d'anglais. La prof m'a interrogée alors que je n'avais pas prévu de participer et j'ai fait une véritable crise d'angoisse alors que je parlais déjà bien anglais à l'époque. Et c'est vraiment là que j'ai compris que j'avais quelque chose qui n'était pas normal au final.
Et du coup, ces différents signes, là, dans ce que tu racontes, on voit bien que c'est toi qui t'en rends compte. Est-ce que tes parents, enfin ta famille, est-ce que tes amis s'en rendent compte aussi ? Est-ce qu'ils t'en parlent avant de faire le diagnostic ?
J'ai l'impression que mes proches ne s'en rendaient pas forcément compte. J'ai grandi en étant une enfant très timide, très dans mon coin, très dans ma bulle. Donc ils imaginaient juste que c'était la continuité. Et comme j'étais adolescente à l'époque, ils se disaient que c'était peut-être une crise d'ado ou juste un peu des phases. Enfin, on a souvent tendance à dire que les ados sont un peu difficiles, un peu dans leur coin. Donc au final, ils ne s'inquiétaient pas. Pour ce qui est de mes amis, du coup, en apprenant à me connaître, ils se disaient juste que c'était ma personnalité et peut-être un côté un peu plus discret et renfermé. Mais j'avoue que d'un point de vue extérieur, c'était un peu plus compliqué en général par contre. Je dirais que du coup, certaines personnes partaient du principe que j'étais timide et d'autres plutôt du principe que j'étais excessivement renfermée, voire que j'avais un problème avec les autres en général, que j'étais peut-être un peu trop arrogante, un peu trop... que je me croyais au-dessus des autres. Du coup, c'était assez difficile pour moi parce qu'en même temps, j'essaie au maximum de contrôler mon image pour avoir une bonne image, mais on ne peut pas contrôler une maladie, donc... J'arrivais pas à aller vers les autres et j'en souffrais énormément et je sais que j'ai aussi loupé pas mal de relations à cause de ça, des personnes du coup qui avaient peut-être un peu peur de ma façon d'être à cause de ce que je dégageais.
Et du coup, au moment où le diagnostic se passe, comment ça se passe ? Est-ce que t'es toute seule ? Est-ce que... Enfin, mec, tu saurais redécrire un peu ce qui s'est passé au moment du diagnostic ?
Du coup, pendant le diagnostic, j'étais avec la fameuse psychologue et... J'étais assez choquée en fait. Enfin, pas surprise, mais choquée. Parce qu'au fond de moi, j'avais toujours un peu l'espoir de me dire que c'était peut-être de la timidité et un manque de confiance en moi et pas quelque chose d'aussi grave qu'une maladie mentale. Du coup, j'ai vraiment pris quelques heures à process et à réfléchir à ces termes parce que j'en avais entendu parler, mais je me doutais pas que je pouvais aussi en être victime d'une certaine manière, enfin victime entre guillemets. Du coup, j'en ai pas parlé pendant quelques jours, voire quelques mois pour certains de mes amis parce que j'osais pas et que j'avais un peu un sentiment de honte d'une certaine manière. Parce que je trouvais ça bête de souffrir du regard des autres alors que c'est normal pour la plupart des gens d'arriver à sortir et d'arriver à avoir une vie normale. Donc je me sentais un peu, très seule en fait. C'était surtout ça le sentiment que j'ai eu, en tout cas les premières heures et les premiers mois avec ce trouble.
Du coup, là, tu disais à l'instant que tu as été choquée, mais pas forcément surprise. Est-ce qu'il y a eu de la colère, peut-être, de te rendre compte que en fait, tu n'étais pas forcément comme les autres, un truc de peur, enfin, est-ce que tu saurais dire un peu les émotions qui t'ont traversé ? Vraiment au moment où tu sors du rendez-vous, quoi.
J'avoue qu'il y a eu pas mal de colère que j'ai ressentie à l'époque, parce que je savais à peu près d'où venait ce trouble. Parce que comme beaucoup d'enfants, enfin anciens enfants, du coup dans mon cas, j'ai été victime de harcèlement scolaire, et je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément impactée par rapport à mon estime de moi et par rapport à l'importance que je donnais au regard des autres. Et je savais que mon trouble venait de là, parce que avant le collège, j'étais une enfant totalement normale. J'étais un peu timide, certes, mais rien de très handicapant, rien de très embêtant. J'étais... totalement en mesure d'aller vers les autres et d'avoir une vie sociale normale, mais c'est vraiment à partir du collège du coup qu'il y a eu ce shift. Et du coup j'ai ressenti une certaine colère quand j'ai eu le diagnostic, parce que je me suis rendu compte que le harcèlement, ça faisait peut-être 5 ans, presque 10 ans, mais il y avait encore des conséquences qui me poursuivaient, et ça fait quand même pas mal au cœur de se rendre compte que quelque chose d'aussi vieux peut nous impacter sans qu'on ait envie d'avoir cet impact. Et au-delà de la colère aussi, c'était surtout la honte d'une certaine manière, parce que je trouvais ça un peu ridicule à 18 ans d'avoir peur de sortir de chez soi, alors que j'avais aucune raison en vrai d'avoir cette peur, à part le harcèlement que j'avais vécu, j'avais pas vraiment de raison d'avoir autant peur des autres. Donc je dirais oui, c'était surtout ces deux sentiments, la colère et la honte d'une certaine manière.
Et du coup là justement tu parlais de cette colère que tu avais en toi et de ce lien que tu as fait avec le harcèlement que tu as pu subir. Est-ce que c'est un lien dont tu as parlé avec la psychologue que tu as consultée à ce moment-là? Et est-ce qu'elle t'a dit, en tout cas confirmé, que du harcèlement pouvait causer ou en tout cas aggraver une possibilité, augmenter une possibilité de développer ce type de trouble?
Oui, totalement. Après qu'on ait eu le diagnostic de poser, elle m'a posé pas mal de questions sur mon passé, ce que j'avais vécu, pour un peu tenter d'avoir des explications. Et quand je lui ai parlé de harcèlement scolaire, elle était en mode, ben, tout s'explique. Enfin, pas tout exactement, mais une grosse partie. Les phobies sociales, on a un peu du mal à les comprendre, mais il y a une grosse partie qui est environnementale. Et quand on a subi des chocs, d'une certaine manière, ben, ça impacte pas mal notre... l'importance qu'on donne au regard des autres et du coup potentiellement le fait d'être apte à avoir à développer de l'anxiété sociale ou pas. Donc c'était mon cas. Après il y a d'autres facteurs que dont je n'ai aucune idée et qui sont un peu externes à moi, et des fois des facteurs génétiques, des fois juste la malchance ou plein d'autres choses aussi. Le fait de ne pas forcément avoir énormément confiance en moi en grandissant, ça ne m'a pas aidée par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que le harcèlement, c'était un peu une des causes principales et c'était peut-être la cause que je comprenais le mieux et qui, pour ma psy, était la plus gérable d'une certaine manière.
Et je voulais revenir tout à l'heure, tu disais que il y a un moment où vous avez fait des tests, notamment par rapport à l'anxiété généralisée. Est-ce que ça arrive au même moment du diagnostic de phobie sociale? Est-ce que ça arrive avant? Et est-ce que avant même ce moment-là, parce que justement tu avais ce côté potentiellement timide, introverti, etc., il y a eu des diagnostics qui ont été posés ou qui ont été évoqués?
Alors avant, j'avais pas spécialement de suivi parce que j'étais dans une sorte de déni où je me disais juste que ben j'étais peut-être un peu timide et un peu chiante et qu'il n'y avait rien à signaler. Du coup, avant, j'ai pas eu d'autres diagnostics. On était tout de suite parti sur l'anxiété sociale parce que c'est vraiment ce qui correspondait le maximum à mes expériences et à mes ressentis. Après, c'est vrai qu'il y a eu des suspicions peut-être d'anxiété généralisée, notamment parce que j'allais pas forcément super bien dans ma vie à l'époque où le diagnostic a été posé et que ça pouvait peut-être aussi être une autre réponse. Mais on a découvert plus tard qu'en fait, le problème de l'anxiété sociale, c'est que souvent, il y a des comorbidités, donc qu'on a d'autres problèmes à côté. Donc moi, mes principaux problèmes, c'était dépression, manque d'estime de moi. Et tout ça mélangé a fait que déceler le diagnostic spécifique de l'anxiété sociale était un exercice assez difficile, mais qui a quand même réussi à être fait. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de mon côté de faire la différence entre ce qui appartient à la dépression, ce qui appartient à l'anxiété sociale, ce qui appartient au reste, et de vraiment cloisonner, de régler les causes spécifiques qui sont liées à une maladie spécifique.
Et je voulais revenir tout à l'heure, on parlait un peu des émotions que tu as pu ressentir au moment du diagnostic. Est-ce qu'en plus de ces émotions-là, donc tu parlais très bien de la colère, de la honte, etc., est-ce qu'il y a eu une forme de soulagement, ou en tout cas quelque chose de dire « bon, bah, je vis avec ça depuis toujours », et là, il y a un mot qui est posé, il y a une catégorie, il y a une étiquette, enfin, peu importe le terme que tu utilises. Est-ce que à ce moment-là, ça te soulage? Et est-ce que tu prends conscience de l'impact que ça va avoir sur ta vie?
J'avoue que oui, j'ai aussi ressenti une forme de soulagement parce que j'étais un peu en mode « Ah bah d'accord, donc c'est pas moi qui suis folle, ça existe vraiment ». J'avais déjà entendu parler de phobie sociale parce que quand j'étais plus jeune, je traînais pas mal sur Tumblr et les réseaux sociaux comme ça. Et... il y avait un peu, je dirais pas une tendance, mais on va dire que il y avait une partie de Tumblr qui était très axée santé mentale et beaucoup de personnes parlaient de social anxiety, de depression et tout. Et je me retrouvais dans pas mal de témoignages, mais j'osais pas spécialement me sentir concernée parce que je me disais que j'ai pas eu de diagnostic officiel, donc c'était peut-être un peu présomptueux de ma part de supposer que je souffrais comme elle. Mais du coup, oui, j'ai ressenti une forme de soulagement parce que j'étais en mode « Ah bah, ça veut dire que j'avais peut-être compris, j'avais mis quelques mots dessus, j'avais mis le doigt dessus ». Mais il me manquait juste ce diagnostic pour vraiment poser les choses, être en mode d'accord, c'est réglable, c'est pas quelque chose... Parce qu'on dit souvent, quand on parle de timidité, qu'on peut faire avec et tout. Alors que moi, ce que je ressentais, c'est que j'étais profondément handicapée et que ma vie était vraiment très affectée par le fait que j'arrivais pas à aller vers les autres ou à me sentir en paix quand j'étais entourée d'autres personnes. Donc le fait d'avoir ce diagnostic, je me disais, ben, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que je peux régler et que c'est pas normal ce que je vis et ce que je ressens. Donc il y a peut-être des solutions concrètes et peut-être des thérapies ou des médicaments ou peu importe, vraiment quelque chose qui pourrait m'accompagner et que c'est pas juste un boulet que j'allais devoir traîner toute ma vie.
Oui, donc le côté un peu social et médical, ça fait du bien sur le moment.
Oui, c'était vraiment super rassurant parce que ben, à partir du moment où ça devient médical, c'est plus sérieux. En vrai, c'était pas spécialement pour moi-même, mais c'était aussi par rapport aux autres en fait. pour un peu poser ces mots en mode ben, c'est pas juste moi qui fais un caprice ou qui chipote, c'est je souffre vraiment de quelque chose de concret. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu du mal avec les maladies mentales, mais maladies en général, les gens comprennent que c'est pas vraiment quelque chose avec lequel on rigole, alors qu'un trait de personnalité comme la timidité, on peut un peu le prendre à la légère.
Et du coup, là, à l'instant, tu parlais de ton rapport aux autres, et du coup, j'aimerais bien revenir dessus. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a des personnes, notamment des amis, qui t'ont pas forcément dit tout de suite que tu as eu ce diagnostic. Au moment où tu l'as, c'est qui la première personne à qui t'en parles ? Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que c'est des amis en particulier ? Est-ce que... Enfin, à qui t'en parles en premier ?
Je me souviens que j'en avais parlé à mes amis de fac, parce qu'on était vraiment très très proches et qu'on se partageait un peu toutes nos expériences. Et j'avais été très transparente à ce sujet avec eux. Puis après, j'avais décidé d'en parler avec des amis du lycée, mais le dialogue a été un peu plus difficile, on va dire, parce qu'ils comprenaient pas nécessairement, je pense qu'ils prenaient pas la mesure et ils n'avaient pas forcément entendu parler de ce genre de trouble, donc ils s'imaginaient que c'était peut-être un terme, que c'était peut-être un terme un peu compliqué pour juste dire timidité et que c'était peut-être moi qui voulais un peu trop médicaliser quelque chose qui était super banal au final. Et j'avoue que ça m'avait un peu refroidi et que du coup je me suis un peu renfermée et que après j'ai pris un peu du temps avant de recommencer à en parler à d'autres personnes. Donc notamment à mes amis à l'ENS qui ont été très à l'écoute et qui ont totalement compris de quoi je souffrais et qui pour certains, pour le coup, je pense, souffrent aussi d'anxiété sociale d'une certaine manière. Donc je dirais que oui, ça a été très progressif pour moi le fait d'en parler parce que ben, c'était mal compris en fait. Et peut-être que j'avais pas forcément su mettre les termes qu'il fallait et que... Bah pour les personnes qui ont grandi avec moi, c'était un peu difficile d'imaginer que je pouvais souffrir d'une maladie mentale.
Et justement, sur toutes ces... Alors, je sais pas si c'est des remarques, mais en tout cas, sur toute cette perception que les autres pouvaient avoir autour de toi, est-ce que tu leur répondais et est-ce que tu arriverais aujourd'hui à expliquer la différence entre ce dont tu souffres, parce que tu parles bien d'un handicap, tu parles bien d'une maladie, et ce qu'on pourrait considérer comme étant l'anxiété de base qu'on peut tous et toutes... de vivre un moment de notre vie. T'arriverais à expliquer la différence ?
Oui, j'ai pris du temps avant de... pas de comprendre, mais vraiment avant d'expliquer cette différence, parce que j'avais un peu du mal à savoir ce qui était normal et ce qui n'était pas normal. Mais c'est vrai que maintenant, très clairement, je dirais que la timidité, c'est quelque chose de plus passager, c'est dans des situations vraiment très spécifiques. Et surtout, c'est pas quelque chose qui isole socialement. Alors que l'anxiété sociale, pour le coup, elle isole complètement. C'est assez extrême. Moi, je me souviens qu'au lycée, le simple fait de sortir pour moi était une épreuve. Donc, dès que ma mère m'envoyait faire des petites courses, c'était un peu la bataille parce que j'osais pas lui dire que si je ne voulais pas sortir, c'est pas parce que j'avais la flemme, mais c'est juste parce que j'avais trop peur du regard des autres. Alors qu'une personne timide, peut-être qu'elle aura un peu peur de donner la monnaie à la caissière, mais dans le même temps, elle sera capable de le faire. Alors qu'une personne qui souffre d'anxiété sociale va vraiment s'isoler et n'est juste pas en mesure de le faire. Et un autre facteur en anxiété sociale, c'est que souvent, bah, du coup, il y a des comorbidités, comme je disais un peu plus tôt, c'est qu'on souffre d'autres troubles en parallèle et qu'on a aussi de graves problèmes d'estime de soi. Et ça peut aller très loin. Enfin, moi, je sais que ça a un peu contribué à mes problèmes de dépression et à des idées noires aussi que j'avais à l'époque. Donc, c'est vrai que tout ça cumulé, je dirais que c'est vraiment une question d'intensité, en fait. L'anxiété sociale est tellement plus excessive, tellement plus irrationnelle et vraiment dans absolument tous les domaines. Alors que la timidité, c'est quand même plus ciblé, c'est quelque chose qui est à peu près gérable dans la vie quotidienne.
Toujours pour continuer sur le regard de tes proches, t'as beaucoup parlé de tes amis. Comment ta famille a accepté, a entendu, a compris ce que tu vivais ? Parce que là, tu parlais de ta mère à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clair pour elle, pour ta famille de manière générale ?
Alors, je dirais qu'un de mes regrets, c'est que j'ai pris énormément de temps avant de leur en parler, parce que j'osais pas et que... J'avais un peu cet a priori de me dire que, ben, comme beaucoup d'adultes, ils vont juste se dire que c'est une adolescente qui cherche à avoir de l'attention, alors que c'était pas du tout le cas. Quand j'ai commencé à leur en parler, il y a à peu près 1-2 ans de cela, ils ont vraiment compris, en fait. Notamment ma mère, parce qu'elle a réalisé qu'elle en avait souffert quand elle était plus jeune, donc déjà, elle était en mesure de comprendre. Mon père aussi a été très à l'écoute, parce que j'ai mis ça en parallèle de mon expérience d'harcèlement scolaire, donc il a vraiment compris que c'était pas juste un caprice ou une volonté d'avoir de l'attention, mais que c'est vraiment quelque chose d'assez profond. Et j'ai vraiment tenté d'être transparente avec eux en leur expliquant concrètement à quoi ressemblait une journée que je pouvais avoir. Donc tous les questionnements et les souffrances que je pouvais ressentir et que la personne lambda, entre guillemets, ne va pas comprendre d'une certaine manière. Et ils ont été très à l'écoute et Ils m'ont énormément soutenue en fait pour que progressivement j'arrive à gagner en confiance et que je sorte de ma zone de confort et que je me sente plus à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai ce regret de ne pas leur en avoir parlé plus tôt parce que j'aurais pu avoir un soutien plus rapide. Mais dans le même temps, je pense que j'étais pas prête et que j'avais pas forcément les termes qu'il fallait pour expliquer ce que je ressentais.
Et du coup, justement, pour rebondir sur cette question à laquelle tu as répondu à tes parents, à quoi ça ressemble une journée dans ta peau avec cette difficulté, ce trouble-là ?
Très honnêtement, une journée dans ma peau, déjà, elle commence en général très négativement. Parce que la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui m'attend en fait ? Est-ce que les gens vont se moquer de moi ? Est-ce qu'ils vont trop me regarder ? Est-ce que ma tenue va être correcte ? Est-ce que ma voix est pas si mal que ça aujourd'hui ? Est-ce que je ne vais pas dire tout et n'importe quoi à X événements ? Enfin, c'est un milliard de questionnements qu'on se pose dès le réveil où on se dit « Waouh, je vais devoir gérer tout ça et je vais devoir faire bonne figure en fait ». Et c'est très lourd parce que ces questionnements, la plupart des gens, ils les comprennent pas parce qu'ils vont se dire « Mais c'est très futile, enfin... » On s'en moque que ta voix, elle déraille un peu pendant le quatrième exposé de la journée ou c'est pas si grave s'il y a des collégiens qui te regardent un peu mal dans le tramway parce que c'est des collégiens. Mais pour moi, en fait, c'est des problématiques qui sont complètement insurmontables. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont insurmontables. Maintenant, avec les années, j'arrive un peu mieux à les gérer, mais c'est vrai que au tout début de ma maladie, c'était vraiment en mode bah, je peux pas gérer ça, en fait. Donc je me disais que même pour une sortie de 30 minutes, il me faut au minimum 2 heures de préparation. Quand je devais avoir toute une journée de cours, bah, du coup, c'était dès la veille où je devais me mettre psychologiquement dans un état où j'étais en mode, bah, c'est un peu comme si j'étais un soldat qui allait à la guerre et je devais avoir mon armure et je devais un peu préparer des répliques en avance, je devais me solidifier mentalement autant que possible. Et c'est quelque chose qui est très lourd en fait, parce que bah, du coup, j'avais un peu l'impression de manquer de spontanéité dans mes journées, de manquer de vie d'une certaine manière. Et j'avais aussi un contre-coup qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, bah, j'avais une grosse fatigue. Parce que quand on a passé toute la journée à réfléchir à ce qu'on devait bien dire ou à ce qu'on a mal dit, à comment se comporter, à comment marcher, comment aborder les autres, on est juste drainé d'une certaine manière. Du coup, ouais, je dirais que c'est vraiment ça, c'est passer une journée dans le doute et le questionnement et la remise en question de soi-même et aussi dans beaucoup de négativité en fait. On passe son temps à se déprécier, à se dire « Ah mais je suis pas assez bien pour les autres » ou « Je fais pas assez bien ci » ou « Je dis pas assez bien ça ». Enfin, c'est vraiment comme si on avait un petit diable dans notre tête à chaque fois qui disait les choses les plus négatives possibles et qui était super dramatique et qu'on n'arrivait pas à faire taire ce diable en fait.
Et du coup justement pour rebondir sur ce truc-là d'avoir un petit diable, concrètement est-ce que ça veut dire que par exemple tu vois toujours les pires scénarios possibles pour chaque événement, pour chaque chose de la vie ?
Oui, très concrètement. J'essaie un peu maintenant d'arriver à moins voir les choses autant négativement, mais c'est vrai que mon premier réflexe, c'est toujours de m'imaginer quel est le scénario le plus catastrophique qui peut se passer. Et vraiment pour des choses absolument random. Donc par exemple, si je vais aller à la boulangerie, je vais me dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe par exemple si ma carte ne fonctionne pas et que je me sens humiliée devant les autres ? Qu'est-ce qui va se passer si je tombe sur le chemin et que des personnes me voient ? Ou... si j'ai par exemple un peu un souci de voix et que j'ai du mal à dire concrètement à la vendeuse ou au vendeur ce que j'ai envie d'avoir dans la boulangerie. Enfin vraiment genre, j'ai toujours réfléchi au pire scénario alors qu'il ne se passe quasiment jamais au final. Enfin plutôt qu'ils n'ont quasiment jamais lieu. Et c'est très drainant en fait parce que du coup ça ne donne pas envie de sortir concrètement. Enfin parce qu'on a un peu l'impression que ben, on a cette épée de Damoclès en permanence où on est en mode ben, peut-être que ça peut arriver... Certes, la probabilité est faible, mais est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce risque ? Parce que j'ai pas l'impression que j'ai les épaules pour supporter si la situation se passe vraiment, en fait.
Et du coup, concrètement, dans quel état tu es à la fin d'une journée ?
En général, je suis absolument épuisée à la fin d'une journée. Et j'ai un peu mon cerveau qui a tendance à faire un peu un récap de tout ce qui s'est passé et ce qui s'est mal passé, en tout cas dans mon interprétation. Donc je vais me dire, ah, mais à telle personne, je lui avais pas dit ce mot exactement correctement. Ou telle autre personne, ben, peut-être que j'aurais dû un peu plus se sourire parce qu'elle va se dire que je suis comme ci ou comme ça. Enfin vraiment, je fais un peu une sorte de débrief de tout ce qui n'allait pas dans mon attitude et après je me blâme systématiquement. Et du coup, en fin de journée, je suis complètement drainée et j'ai juste pas envie de ressortir parce que je me dis, enfin, si à chaque fois que je sors c'est comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être en contact avec les autres ? Ça va un peu mieux aujourd'hui dans la mesure où j'arrive un peu mieux à contrôler ses pensées et à contrôler l'énergie que je mets dans toutes ces négativités. Mais c'est vrai que des souvenirs que j'ai au lycée, enfin, je pouvais passer des fois des week-ends entiers où je ne sortais pas de ma chambre Et... Enfin, c'est assez marrant parce que du coup, mes parents pensaient que je faisais vraiment une crise d'ado et que j'avais juste besoin de sommeil, mais je dormais même pas. C'est juste que j'étais tellement épuisée par le fait de toujours me questionner et d'avoir ces fins de journée complètement harassantes que du coup, j'avais besoin un peu d'un repos social où je croisais personne et je restais dans ma bulle.
Et du coup, je voulais revenir toujours sur le rapport aux autres, le rapport aux autres élèves, parce que donc, tu expliquais tout à l'heure de manière très claire que c'est a priori un harcèlement qui a été la cause de cette phobie sociale. Est-ce que le harcèlement s'est arrêté à un moment? Est-ce que, à partir du moment où tu as eu ce diagnostic, le harcèlement a potentiellement changé? Enfin, est-ce qu'il y a eu un impact du diagnostic sur le harcèlement?
Le diagnostic était bien après le harcèlement, du coup, je dirais que j'aurais un peu tendance à détacher les deux. Mais c'est vrai que le regard du coup, que j'ai porté sur le harcèlement que j'ai vécu, il a complètement changé après le diagnostic. Parce que j'ai eu tendance du coup à un peu moins minimiser ce que j'avais vécu et à me rendre compte qu'il y avait vraiment eu des conséquences très concrètes et que c'était pas juste des petites moqueries d'adolescence, c'était vraiment quelque chose de très profond qui a affecté mon estime de moi-même, qui a affecté mon rapport aux autres. C'est vrai qu'à partir de là, j'ai porté un autre regard sur le harcèlement aussi en général et j'ai arrêté de le prendre comme quelque chose qui était un peu une étape banale d'une certaine manière et vraiment j'ai commencé à voir ça comme quelque chose qui avait des conséquences et contre lesquelles il fallait vraiment lutter concrètement.
Et si jamais tu te sens d'en parler, hein, évidemment. Tu disais que c'était pas juste des petites moqueries d'adolescents. Est-ce que tu saurais donner des exemples de je sais pas si ça traduisait par des commentaires, par des remarques, par des regards. Enfin, tu saurais décrire un peu comment ça s'est passé.
En vrai, j'ai tendance à dire que mon cerveau a peut-être un peu blackout certaines choses que j'ai vécues au collège. Mais il y a un événement qui m'est particulièrement marqué, c'était un jour, j'étais dans la cour en troisième, j'étais en train de jouer ou de rigoler avec une amie, je sais plus, et un garçon m'a craché dessus, sur la veste. Et j'ai absolument pas compris pourquoi, c'était absolument gratuit, et ce garçon, souvent quand on était dans la file pour la cantine, il avait tendance à se moquer de mes tresses ou de mon apparence. Et devant mes amis, je faisais comme si ça allait bien, mais au fond, ça m'affectait profondément parce que j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque. Et que je me disais peut-être que je le méritais d'une certaine manière et que j'avais pas de valeur. Et c'est vrai que c'était souvent des petits événements comme ça, genre des petites moqueries. J'ai pas vraiment eu d'harcèlement continu, c'était vraiment juste des personnes qui, pour une raison X ou Y, avaient décidé de s'acharner sur moi et de se poquer. Et c'est quelque chose qui est très marquant d'une certaine manière, mais que j'avais un peu mis de côté jusqu'au diagnostic parce que je me disais, ben ouais, ça arrive et peut-être que j'avais vraiment une tête à claque ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi.
Du coup, juste pour rebondir sur le côté harcèlement, j'en profite quand même pour dire, alors je sais pas comment c'était, comment était la loi au moment où ça se passe pour toi, mais aujourd'hui, dans la loi, alors j'ai pas la loi exacte en tête, mais il suffit d'une seule fois en fait pour que ça soit considéré comme du harcèlement et pas forcément de 10, 15, 20 fois, donc voilà, je tenais quand même à le préciser là maintenant. Et du coup, est-ce que une fois que ce harcèlement a été terminé et que tu as été un peu plus grande, donc que tu étais au lycée, puis après à la fac, etc., est-ce que tu avais l'impression que les gens que tu rencontrais à ce moment-là avaient un regard parfois un peu négatif, un peu moqueur, sans que ce soit forcément du harcèlement, mais en tout cas une forme de distance ou d'incompréhension vis-à-vis de ton comportement et de tes difficultés?
Très clairement, oui. À partir de la fin du collège, j'avais vraiment cette impression permanente que les gens me jugeaient sur ma façon d'être. Après, c'était aussi, il y a d'autres problèmes, c'est que... Quand on est un peu la seule fille différente, et j'étais très différente parce que souvent j'étais un peu la seule minorité entre guillemets, on a un peu l'impression que les gens nous regardent plus. Et du coup, comme j'avais un caractère qui était très enfermé, je partais toujours du principe que les gens avaient une opinion négative de moi, sans forcément me poser la question de si c'était fondé ou pas. Du coup, ça fait que mes années lycée, mes deux premières années de fac, c'était des expériences qui étaient assez isolantes d'une certaine manière. Parce que j'avais tellement peur d'aller vers les autres et j'avais tellement peur quand les gens me regardaient ou voulaient me parler parce que je me disais forcément que ça allait mal finir, que j'allais de nouveau me faire harceler, de nouveau me faire moquer. Après, bien évidemment, j'ai croisé des personnes qui ont eu des moqueries à mon égard ou qui n'ont pas forcément été très agréables, mais c'était loin d'être la majorité. Mais j'avais un peu ce focus permanent, cette négativité, parce que je me disais que si je la continuité, peut-être que j'allais subir ça toute ma vie d'une certaine manière.
Depuis le début, on parle beaucoup des gens autour de toi, des gens de ton âge, en fait, donc des élèves, etc. J'aimerais bien parler un peu de l'autre côté, c'est-à-dire parler des enseignants, du corps enseignant. Déjà, est-ce qu'au moment de ton harcèlement, les profs se rendent compte de ce qui se passe ?
Alors sincèrement, j'avais pas l'impression que les profs s'en rendaient compte, mais le peu qu'il y avait un peu une forme d'attention sur ce qui se passait dans les classes s'en moquait d'une certaine manière, parce que tout ce qui comptait pour eux, c'était soit qu'on soit très bon à l'école, soit qu'on soit très bon en sport, parce qu'on avait toute une section sport-études très exigeante. Du coup, c'était pas trop leur problème, ils étaient un peu dans l'optique, ben faut vous renforcer et passer haut, serrer les dents. Je suis pas forcément super fan de cette méthode, mais c'est vrai que ça m'a aidée parce que je me suis plongée complètement dans l'école, dans les cours, et ça fait que je suis là où je suis aujourd'hui, parce que si je m'étais trop concentrée sur ce que je ressentais, je pense que honnêtement je me serais écroulée, j'aurais vraiment pas eu les épaules pour la suite. Mais c'est vrai que c'est une approche que j'ai trouvée particulièrement violente et qui n'était pas du tout pédagogue en fait. Enfin, j'avais un peu l'impression qu'il y avait une sorte de manque d'humanité d'une certaine manière, et ce qui m'avait surtout marqué, c'était que j'avais une prof principale avec qui j'avais parlé de ses problèmes de façon très limitée, parce que je voulais pas non plus jeter sous le pont certains des élèves de l'école, et qui m'avait dit que je pouvais me concentrer plutôt sur les cours, quoi. Enfin, qu'il y avait un peu plus important dans la vie, et que si je commençais à pleurer parce que quelqu'un se moquait de moi, j'allais jamais m'en sortir plus tard, quoi. Et du coup, j'ai écouté, j'ai pris en compte son avis, je me suis dit peut-être qu'elle a raison, et peut-être que les gens sont profondément méchants au final dans la vie en général, et que c'est juste à moi de me renforcer et à ne pas être aussi fragile dès que quelqu'un se moque de moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pris du temps à déconstruire, à me rendre compte que non, la méchanceté c'est pas du tout la normalité, et que c'est pas quelque chose à accepter du tout. Mais du coup, pendant des années, j'étais dans cette optique. Et pour ce qui est de mon rapport aux profs, plus généralement, c'est vrai que beaucoup soit ils se disaient que j'étais juste timide parce que c'était ma personnalité, soit ils se disaient que j'étais profondément arrogante. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu, en fait. Ils se disaient que j'avais un problème, mais soit ils l'interprétaient de façon un peu positive, parce qu'en vrai, être timide, c'est mignon, soit c'était complètement négatif, en mode, si elle parle pas, c'est parce qu'elle se sent un peu meilleure que tout le monde. C'est vrai que ça avait quand même pas mal culminé en troisième, avec un de mes profs de maths qui a un peu contribué à mon harcèlement, d'une certaine manière, qui vraiment, pour le coup, il n'arrivait pas à me blairer, en fait. Il trouvait que j'étais trop renfermée, mais que si j'étais renfermée, c'est parce que je me sentais un peu supérieure. Et du coup, il voulait s'acharner sur moi, et il me sortait pas mal de remarques très humiliantes, très négatives, et il avait vraiment tenté de me rabaisser à plusieurs fois face à mes camarades de classe. Au lycée, ça s'est un peu atténué, mais j'avais quand même quelques profs aussi qui avaient du mal avec ma personnalité et qui m'ont fait savoir, de façon directe ou indirecte. Et c'est vraiment qu'à partir de la fac où les profs n'ont pas forcément le temps de s'étendre énormément sur ta personne, que j'ai un peu eu plus de liberté et que je m'en foutais un peu plus au final de savoir si les profs m'appréciaient ou pas. Et c'est vrai que oui, du coup, à partir du moment où j'ai été harcelée, mes rapports avec les professeurs ont commencé à être très difficiles.
Et justement, pour parler un peu de la fac, si je résume mon diagnostic vers 18 ans, est-ce qu'à ce moment-là, tu décides d'en parler aux profs à la fac ?
Du coup, quand j'avais eu le pré-diagnostic, j'étais encore dans mon ancienne fac. J'avais pas voulu en parler. Non seulement parce que je considérais que c'était un peu privé, et que comme c'était un pré-diagnostic, c'était encore un peu fragile. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu le diagnostic, quand j'étais à l'ENS, donc vraiment quelques mois après mon arrivée, j'en avais parlé à mon tuteur, un peu par souci de transparence, parce que je lui parlais un peu de... Enfin, je lui parle toujours un peu de tout ce qui me traversait la tête et ce qui a affecté ma vie et du coup mes performances scolaires. Et il a été très à l'écoute, il a totalement compris. Et après, malheureusement, il m'a dit que je devais faire avec et que je pouvais pas forcément avoir des aménagements, mais il a compris le problème. Et il en avait parlé légèrement un peu à mes responsables de formation pour un peu... dire que je sois aménagée d'une certaine manière, enfin, autant que possible. Ou du moins jusqu'à que je trouve des solutions concrètes qui pourraient m'empêcher d'avoir besoin d'aménagements spécifiques, notamment genre ne pas trop participer en cours, ou des choses un peu bêtes comme ça.
Et parce que du coup, toi, au moment où tu décides de lui en parler, est-ce que tu as des attentes vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce qu'il pourrait mettre en place, ou vis-à-vis de comment il pourrait présenter tes difficultés aux autres professeurs, etc.
J'avoue que ma seule volonté, c'était peut-être que les profs soient un peu moins sur mon dos, et qu'il y ait un peu moins d'attentes au niveau des participations, et que... notamment peut-être qu'on évite de me poser des questions directement sans que je lève la main de ma propre initiative, parce que j'avais toujours besoin de ce temps de préparation où je devais écrire les questions ou écrire les réponses que je voulais poser. Et du coup, C'est vrai que c'était à peu près ma seule attente parce que je savais de façon très lucide qu'une personne qui souffre d'anxiété sociale, elle fait pas non plus long feu quand elle veut faire recherche. Donc j'avais pas forcément le choix. Je savais que je devais m'adapter, mais j'avais juste cette légère exigence de me dire ben, laissez-moi quand même le temps, histoire que je m'habitue à cette maladie, histoire que je trouve ma façon de la gérer de façon optimale pour qu'elle n'ait pas des conséquences sur ma personne et que j'ai pas ce poids en plus de me dire que. Waouh, genre, j'ai un peu une sorte d'échec ou un boulet pour tout le monde. Enfin, je demandais juste un peu un temps d'adaptation et c'était vraiment ma seule exigence. Et c'est vrai qu'elle a été relativement bien comprise par mon département et j'avais été assez surprise d'une certaine manière.
Oui, c'est justement la question que j'allais te poser, à quel point du coup ça a été respecté, à quel point bah, le fait que en fait, si tu lèves pas la main, on t'interroge pas, ou même de manière générale, qu'on fasse attention à toi, soit au contraire, justement, qu'on pas continuant, mais qu'on ne s'acharne pas sur toi. Est-ce que ça a été respecté?
Je trouve que globalement, ça a été assez bien respecté. Peut-être même trop, parce que du coup, j'avais des profs qui étaient très inquiets pour moi et qui peut-être étaient un peu trop sur mon dos, mais dans l'autre sens. Et du coup, oui, ça a été assez bien respecté et ça m'a vraiment permis de prendre le temps de gagner en confiance. Et ça a fait que progressivement, notamment pendant le master, j'étais un peu plus en mesure, par exemple, de poser des questions par moi-même et de me sentir bien, par exemple, pour répondre à des questions ou tout ça. Donc je suis contente d'avoir eu un peu cette chance de prendre le temps, en fait, d'apprendre à vivre avec ce problème de santé mentale. Ce qui est un peu un privilège d'une certaine manière, parce que je sais que beaucoup de personnes ont pas ce temps et on les jette directement dans le lac. On les jette directement dans le bain et elles doivent faire... Enfin, soit elles font avec, soit elles partent. Et du coup, ouais, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir le temps.
Et parce que du coup, là, on parlait des profs... Il se trouve qu'à l'ONS, il y a un référent handicap, il y a d'autres personnes en fait, qui constituent le corps administratif, etc. Est-ce qu'on a parlé à ces autres personnes-là?
Non, j'en avais pas du tout parlé au référent handicap. J'avoue que cette personne me semblait relativement inaccessible et je me disais que j'avais pas non plus un trouble qui était trop grave. Parce que comme il peut être apparenté à la timidité, c'est pas non plus quelque chose qui nécessite énormément d'aménagement ou énormément de temps d'écoute. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressentais à l'époque. Je le verrais peut-être un peu différemment aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, je me disais que c'était pas forcément si grave que ça et qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment besoin de choses un peu plus spécifiques.
Et là, on parle des profs, etc. Je m'en ai pendant les cours. Tu parlais tout à l'heure d'exposé, il y a eu des examens ou des choses comme ça, j'imagine. Est-ce que ça t'a empêché de faire certains examens, de réussir certains concours, etc., de manière générale dans ta vie, pas que à l'ONS?
Alors, c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, les examens, les exposés, toutes les expériences du style, parce que... je me sentais pas à 100% en fait. Parce que quand on consacre quasiment 80% de son énergie à gérer ses peurs, bah t'as que 20% qui reste sur le contenu ou sur ce que t'as envie de préparer, ce que t'as envie de montrer. Et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi à vivre parce que j'avais un peu l'impression que je pouvais jamais montrer mon potentiel. Et c'est un peu une frustration que je traîne d'une certaine manière depuis des années et des années de me dire que j'ai jamais vraiment pu être à 100% dans mes études. Je dirais pas que c'est un regret parce que ben, c'est comme ça, genre cette maladie m'est tombée dessus et c'est pas quelque chose que je pouvais contrôler. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très dommage. Ça m'a pas empêchée parce que d'une certaine manière j'avais pas le choix et que j'avais aussi des rêves, des objectifs spécifiques et que j'avais pas envie non plus de me laisser complètement abattre. Mais c'est vrai que ça a été très difficile à vivre et que jusqu'à aujourd'hui c'est un peu quelque chose que j'essaie un peu de détricoter, de travailler, notamment avec ma psy, pour éviter d'avoir tous ces regrets et de me blâmer pour tout ce que j'ai mal fait ces dernières années.
Et justement, là, tu parlais de rêves. Est-ce qu'il y a des rêves ou des buts ou des choses que tu voulais absolument faire ou accomplir et qui t'ont paru inaccessibles à partir du moment où tu as compris, en fait, bah, qui tu étais, comment tu fonctionnais, etc. Parce que tout à l'heure, tu disais que c'est compliqué de faire long feu dans la recherche quand on souffre ou quand on a, en tout cas, de l'anxiété sociale. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît inatteignable, la recherche? Est-ce que, de manière générale, tes buts ou certains de tes rêves te paraissent inaccessibles?
Alors je dirais que maintenant, non, avec un peu plus de recul sur cette maladie, ça va. Et c'est vrai que comme mon rêve de gosse, enfin depuis l'âge de 8 ans, c'est de devenir chercheuse, c'était un peu difficile pour moi d'accepter d'avoir cette maladie parce que, ben, parce que moi, t'es incapable d'aller en dehors de chez toi. Le simple fait, de, par exemple, d'aller dans un laboratoire ou de faire des conférences comme la plupart des chercheurs, ben, ça me semblait complètement impossible en fait. Du coup, j'avais cette grosse frustration de me dire que ben, j'avais ce rêve pour lequel j'avais énormément travaillé, mais qu'il y avait juste mon cerveau qui mettait un gros stop en mode bah non, genre tu peux pas, c'est impossible. Maintenant que j'arrive un peu mieux à gérer la maladie, c'est vrai que j'arrive un peu mieux à me projeter et je me dis que ben, c'est faisable, qu'il me faudra du temps, qu'il me faudra beaucoup de patience et un peu aussi beaucoup d'indulgence avec moi-même. Mais ça me semble plus atteignable aujourd'hui, on va dire. Parce que j'ai eu aussi la chance d'avoir un peu une forme de représentation. Enfin, j'ai pu discuter avec des chercheurs et surtout des chercheuses qui avaient des problèmes d'anxiété et qui étaient très bien là où ils étaient. Donc je me suis dit, ben, c'est complètement accessible du coup. Ça veut dire que je peux le faire. Ça va pas être aussi simple que pour les personnes qui ne souffrent pas d'anxiété, mais c'est faisable.
Et je voulais juste revenir sur un aspect dont on n'a pas du tout parlé. Outre les aménagements entre guillemets que certains profs peuvent faire en ne t'interrogeant pas, etc. Est-ce qu'il y a une solution, c'est pas forcément le bon terme, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, type un traitement ou des choses comme ça pour essayer de te soulager au quotidien?
Oui, alors il y a des traitements médicamenteux qui sont possibles. Moi, personnellement, j'avais pas spécialement envie d'en prendre parce que j'avais pas envie que ça interfère avec ma vie en général, parce que des fois, il peut avoir des effets secondaires assez lourds. Et comme j'étais vraiment dans une optique de me concentrer à fond sur mes études et sur ma vie familiale, j'avais pas forcément envie de me retrouver complètement shootée en pleine journée à dormir en permanence. Enfin, c'était un peu impossible pour moi à envisager. Mais il y avait d'autres solutions plus concrètes que ma psy m'avait proposées, donc notamment les thérapies comportementales et cognitives, qui sont super efficaces et qui vraiment pour le coup m'ont changé la vie. Et aussi pas mal de petites astuces du quotidien pour arriver à gérer l'anxiété et à passer outre. Et que j'ai vraiment tenté d'appliquer ces dernières années pour arriver à avoir une vie à peu près normale, on va dire. Pas aussi normale que j'aimerais qu'elle soit, mais suffisamment normale pour ne pas me sentir frustrée.
Oui, concrètement, tu sens que ça marche, que c'est utile.
Oui, enfin, je vois vraiment la différence entre la moi de fin de lycée et la moi d'aujourd'hui, parce que j'arrive un peu mieux à aller vers les autres et j'ai un peu plus l'impression d'avoir une vie d'une fille de 21 ans qui a envie de profiter, quoi.
Et justement, en parlant de vie où tu veux profiter, souvent quand on pense à la vie étudiante, on pense à la vie étudiante, aux soirées, la vie associative, etc., qui est quand même assez... hors Covid, qui est quand même assez développée à l'EMS. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ça a eu un impact?
Ah oui, très clairement. Ça a eu un impact assez important et marquant. Honnêtement, j'ai un peu l'impression d'avoir découvert la vie associative quand j'étais vers la fin de la L3. Donc, c'est-à-dire au moment où Covid commençait à venir. Donc c'était un peu le mauvais timing pour le coup. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu un running gag avec certains de mes potes où je découvre un peu comment fonctionne l'associatif dans cette école. J'ai un peu en mode « Ah, mais il y a telle chose où ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. » Et je dirais pas que c'est un regret, mais c'est vrai que je me dis que je suis passée à côté de pas mal d'expériences parce que les premiers mois à l'ENA, j'étais tellement effrayée des autres que je restais énormément chez moi. J'allais pas trop sur le campus, je me mélangeais pas trop aux autres. Et c'est vrai que c'était un peu dommage parce que j'ai manqué une partie de l'expérience ENS d'une certaine manière. Bon, j'essaye de rattraper ça maintenant avec un peu plus de confiance et un peu plus de sérénité et avec des personnes qui comprennent un peu mieux ce dont je souffre. Mais c'est vrai que oui, c'était un peu dommage et un peu frustrant, surtout que quand je suis rentrée à l'ENS, je venais à peine d'avoir 18 ans, donc un peu la liberté totale de se dire « Ah, je peux boire, je peux faire la fête, je peux faire ci, je peux faire ça. » Et non, du coup, parce que mon cerveau me mettait en stop, j'étais complètement bloquée.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'œuvre au sens très 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 large du terme, que ce soit œuvre littéraire, filmographique, théâtrale, musicale, enfin un peu tout ce que tu veux, qui soit t'a aidé à mieux comprendre ou à accepter ta différence dans qui tu étais, ou soit simplement quelque chose que tu apprécies et que tu aimerais partager aux auditeurs et auditrices?
Du coup, je dirais qu'il y a deux choses principales. Il y a un livre que ma psy m'avait recommandé à l'époque, enfin, celle qui m'a fait le diagnostic, qui s'appelle « La peur des autres » de Christophe André, c'est un psychiatre. Et ce livre décrit exactement ce qu'on ressent quand on a de la phobie sociale ou l'anxiété sociale. Et il donne des petites astuces très concrètes pour arriver à la gérer au quotidien et il permet de comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment un livre qui m'a aidé un peu à avancer d'une certaine manière après le diagnostic et à savoir du coup comment réussir à gérer cette maladie et pas comment en faire ma force, parce que je sais pas si je peux vraiment considérer ça comme une force, mais comment arriver à mieux gérer ma vie et comment réussir à ne pas laisser cette maladie m'empêcher d'accomplir ce que je voulais accomplir. Et il y a un autre truc qui m'a énormément aidée, moi c'est la danse et notamment le club bully de l'ENS. Dès la L3, j'avais commencé à vraiment participer, à faire des chorés avec les autres, des représentations. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand j'entendais les gens dire « Oui, il faut faire du théâtre quand t'es timide », ça m'insupportait, je trouvais ça très agaçant. Mais ça m'a énormément aidé le fait d'être sur scène et de me confronter aux autres et de ressentir en fait cette liberté de m'exprimer complètement. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie et qui fait qu'aujourd'hui, je gère un peu mieux mon anxiété. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu paradoxal aujourd'hui d'être un peu la meuf qui danse et qui fait des représentations, mais qui en même temps a peur de dire bonjour. Enfin, je suis un peu à double vitesse, mais ça me permet d'apprendre en fait et de me sentir plus en confiance. Donc je recommanderais à 100% la danse et encore plus à l'ENS.
Eh ben merci beaucoup Kaira d'avoir répondu à mes questions et d'être montée sur la scène entre guillemets du Transistor donc le studio. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.